Culture Sport, le lundi soir sur Attitude, dès 19h. Les résultats complets du week-end en région, présentés par Christian.
Bonsoir à tous et bienvenue dans le Flash Résultats des Sports. Ce lundi, on va parler de rugby, de football, bien sûr, de handball, de basket, de pétanque et de course à pied, puisqu'il y avait le marathon du Cognac ce week-end. On va commencer par le football et la CFC, qui recevait la réserve du FC Nantes. Angoulême, qui s'était incliné la semaine dernière à domicile contre Bergerac, se devait de réagir. Et ça a été fait avec brio, puisque la CFC s'impose 3-0. Des buts marqués par Bekwe à la 34e minute, par Benjamin Barque à la 40e minute et par Alexandre Mourabit en second mi-temps à la 46e. Un succès qui ne souffre d'aucune contestation. Tant Angoulême a dominé cette équipe nantaise, eh bien la CFC fait une superbe opération au classement. On le verra tout à l'heure. En tout cas, c'est une belle victoire pour les Angoumoisins. On était dans les vestiaires à l'issue de la rencontre et on a rencontré l'homme du match, auteur d'un but et d'une passe décisive. On écoute tout de suite Alexandre Mourabit.
Alex, victoire 3-0 ce soir contre le FC Nantes. On s'était quitté la semaine dernière contre Bergerac, forcément déçu du résultat. Ouais. Là, ce soir, la victoire, elle fait forcément du bien.
Ouais, elle fait du bien, elle fait du bien. Elle arrive au bon moment, je pense. Parce que là, on jouait 2-3 matchs à la maison. Il fallait confirmer les quelques matchs qu'on faisait depuis, malgré les résultats qui n'étaient pas là. Donc, non, il arrive à point nommé, comme on dit. Ouais.
Le coach répétait ces dernières semaines que vraiment les prestations étaient bonnes, que vos intentions à vous étaient aussi bonnes. Ce soir, du coup, on a vraiment vu un festival offensif. Vous êtes récompensé vraiment de vos travaux sur les dernières semaines.
Oui, voilà. C'est que je pense qu'on bosse beaucoup sur le terrain. Donc, on n'a pas été forcément récompensé les fois précédentes. On a manqué de chance. Et là, ce soir, ça nous a plus ou moins souri. Rapidement, donc non, mais
grosse première demi-heure, vous avez beaucoup d'occasions. Paradoxalement, au moment où le match retombe un peu en pression, j'ai l'impression que vous cherchez votre second souffle, que vous marquez ce premier but, et puis le deuxième but arrive juste avant la mi-temps, ce qui vous met à 2-0, un peu à l'abri, on a envie de dire.
Ouais, bah avant de rentrer au vestiaire, ça fait du bien de mettre le deuxième, même si ça veut pas dire qu'on était tout à fait à l'abri pour revenir en deuxième mi-temps. Mais c'est vrai qu'on a bien entamé ce match, on est rentré avec de bonnes intentions et on a insisté rapidement sur les coups de pied arrêtés, donc ça nous a mis plus ou moins en confiance et après on a pu terminer ça sur deux buts. Ouais.
Et puis en seconde période, tu marques rapidement le troisième but du match. On dit toujours que le troisième but du match, c'est un match est toujours le plus important. Tu perfores la défense défense nantaise, du coup. Raconte-nous un peu ce but.
Bah, comme tu dis, on s'est dit aussi, le troisième but, c'est plus important d'un côté comme de l'autre. Donc c'est vrai que bah, je fais un appel, c'est God. C'est God qui me l'a mis. Ouais, c'est God. Je fais un appel entre les deux défenseurs, il me la met bien et je la pousse un peu avant que le défenseur ait le temps de mettre le pied. Et j'ai le temps d'ajuster le gardien, donc ça fait plaisir.
Bon, et puis à titre personnel, ce soir, prestation XXL, hein, on t'a vu dans tous les bons coups, passeur décisif, buteur. Mais j'ai surtout envie de mettre en avant le fait que tu sois pas blessé, que tu puisses enchaîner les matchs là sur cette saison. Autant les deux premières, même si la première saison avait été stoppée à cause du Covid, t'avais été pas mal blessé, on te voyait par intermittence, autant là, tu peux enchaîner et montrer ta pleine valeur.
Ouais, c'est ça, hein, le fait de pouvoir enchaîner les matchs à 90 minutes, donc ça me fait du bien et j'ai besoin de rythme, moi, pour atteindre mon meilleur niveau, si on peut dire. Touche du bois jusqu'à présent, tout va bien et j'espère que ça continue personnellement et du coup pour l'équipe aussi.
Bon, et puis le week-end prochain, vous allez encore jouer à Le Bon, 4 fois de suite, c'est ouais. Pas forcément très courant. Après une défaite contre Bergerac, une victoire contre Nantes, tu penses que ça va être un match important le week-end prochain?
Bah oui, ça va être un match important parce que dans ce championnat, faut essayer de faire des séries. Après, on rentre pas sur le terrain pour perdre, donc on rentrera pour gagner et forcément, ce sera important de confirmer le match qu'on a fait ce soir.
Voilà, donc la bonne opération pour la CFC. On va donner les résultats de cette deuxième journée avec donc Bergerac et Chamalières qui font 0-0, les Herbiers et Bourges qui font 3 partout, Lorient gagne à Angers 1-0, Romorantin gagne à Vierzon 2-1, la CFC bat Nantes 3-0, Gol FC bat Saumur 2-0 dans le choc des deux leaders, Moulins bat Trélissac 4-2 et enfin le Stade Bordelais bat Andrézieux 2-0. Au classement, Gol FC est premier avec 19 points, deuxième Saumur 16 points, troisième les Herbiers 14 points, Angoulême remonte à la 7ème place avec 12 points, donc c'est 2 points d'avance sur le premier relégable Romorantin, donc c'est plutôt une bonne opération pour la CFC hein, qui gagne 4 places avec ce succès contre Nantes, mais le championnat est vraiment hyper serré, tout reste à faire. Prochain match pour la CFC, réception du Stade Bordelais samedi prochain à 18h au Stade Lebon. Ça va être le quatrième match consécutif à Lebon. Donc on espère que la CFC enregistrera un nouveau résultat positif. En Régional 1, la réserve de la CFC cette fois-ci jouait le lendemain au Stade Lebon contre Hill. Malheureusement, une défaite cruelle pour les jeunes angoumoisins. 1-0 à la dernière minute de jeu dans le temps additionnel. Cruel parce que dans les buts, Alexis Mignonneau avait fait un match extraordinaire. Il avait fait 5 parades à bout portant, tenant à bout de main la réserve de la CFC. Et puis du côté de l'attaque, il y a le jeune Vigneron qui est rentré. Vigneron, 16 ans, qui avait marqué d'ailleurs un but à la 93e minute, malheureusement refusé sur une faute du gardien de Hill. Mais il a fait une entrée remarquée, ce jeune, plutôt bien malgré la défaite. Cognac, lui, s'est imposé à Saint-Pantaléon 2-1. A noté le but de Youssef Boudissa et de Morlan. Cognac qui se replace dans ce championnat puisque la réserve de la CFC est 9e avec 8 points et Cognac est 8e avec 8 points. Les deux équipes charentaises sont en milieu de tableau à égalité, sachant que le derby entre ces deux-là sera dans 15 jours. En Régional 2 en poule A, beaucoup de buts à Leroy qui fait match nul 4 partout contre la réserve de Bressuire. Leroy est 9e avec 6 points. En poule B, victoire de Charente-Limousine 2-0 du côté de Rété. Périgny s'impose malheureusement à Cognac 3-1. Et Merpin s'incline contre Cause 1-0. Au classement, Charente-Limousine est 2e avec 15 points. Merpin est 8e avec 6 points. Mais Merpin a des matchs retard du fait de son parcours en Coupe de France. Et malheureusement, Cognac est dernier avec 3 points pour la réserve cognacaise. En poule D, enfin, Sireuil s'impose à Estuaire-Audiron 3-0. Jarnac s'incline à domicile contre la réserve de Mérignac 5-3. Au classement, Sireuil est 2e avec 12 points. Et Jarnac est 8e avec 9 points. En Régional 3, en poule C, Confolan s'incline par le plus petit des écarts 1-0 du côté de Noyer. Et Ruffec s'impose à Saint-Benoît 5-2. Au classement, Ruffec est 2e avec 7 points. Confolan est 7e avec 7 points. On va continuer avec la poule D avec le parcours sans faute de Saint-Aix qui s'impose contre Coulogniex-Chamier 2-0. Le match entre Soyou et Périgord Centre a été reporté. Ruel s'impose à Thénon-Limira 3-1. Il y a une réserve entre La Roche-Rivière et Verneuil-sur-Vienne, donc à voir sur quoi ça va déboucher. Et enfin, le derby charentais entre Vindel et Puymoyen s'est achevé par 1-0-0. Enfin, en poule G, le carton plein continue pour l'Alliance 3B qui s'impose 6-0 du côté de Saint-Palais. 6 matchs, 6 victoires. L'Alliance 3B trône en tête de sa boule avec 18 points. En D1, je vais donner les scores donc de cette 7e journée avec Moutier qui s'impose contre l'Alliance 3B 3-0. Saint-Michel et les Portugais du Gonpontour font 0-0. Champigny et Merpin 2-1. Brie roulé 1 partout. Bassot s'impose contre la Couronne 5-2. Et enfin, les Sacs et le Roi font match nul 0-0. Au classement, Saint-Michel est toujours en tête avec 19 points. Devant Champigny, 18 points. Et Bassot, 15 points. En deuxième division, poule A, victoire de Ruffec 6-1 contre Mansle. Victoire de Verdi 3-0 à Saint-Aix. Victoire de Chasseneuil à Charente-Limousine 2-0. Match nul entre Mornac et La Roche-Rivière 0-0. Bélair s'incline à domicile contre Sireuil 1-0. Et enfin, Montbron va gagner à Aigre 4-2. Beaucoup de victoires à l'extérieur dans cette poule. Et en poule B, Montmoreau s'incline à domicile contre Jarnac 3-2. Grande Champagne s'impose 5-1 contre Champigny. Châteauneuf s'impose contre Chazelles 2-1. Ruel et Sud-Charente font 2 partout. Nersac s'impose 1-0 à Saint-Séverin-Palois. Et enfin, Linard s'impose 2-0 à Saint-Brice. Linard reste toujours en tête de sa poule. En rugby fédéral 1, long déplacement pour l'UBJ qui se déplaçait du côté de Bagnères-de-Bigorre. Défaite des Barbesiliens 18-12, trop pénalisé malheureusement pour espérer enchaîner un deuxième succès de rang. En handball masculin en National 2, victoire de l'ETEC à domicile contre Limoges. Belle victoire, un 35-29. L'ETEC prend seul la tête de sa poule avec 19 points. 6 matchs, une défaite. 6 victoires, une défaite, pardon. L'ETEC est premier. En basketball féminin, malheureusement, lourde défaite de la Couronne contre Chauray à domicile. Les Couronnaises s'inclinent 49-91. La Couronne est 10e de son championnat avec 10 points, 2 victoires pour 6 défaites pour les Couronnaises qui le week-end prochain se déplaceront du côté de Saran. On va terminer par deux informations du week-end. La Coupe d'Europe des clubs de pétanque avait lieu à Saint-Aix, hein, dans le boulodrome de Saint-Aix précisément. Et la France reste souveraine puisque c'est le club d'Arlanc, hein, donc un club d'Auvergne avec donc dans ses rangs le multiple champion du monde de Philippe Suchot qui s'impose. Il s'impose en finale 16-2 devant une équipe de Monaco. Un joli succès hein, pour le comité départemental de pétanque, puisque beaucoup de spectateurs avaient fait le déplacement pour suivre cette compétition. Et puis on va terminer par le marathon du Cognac sur le 10 km 5, victoire du francilien Arnaud de Lustrac sur le 10 km 5 donc. Et chez les féminines, victoire de Laurine Avigno sur les distances plus longues, donc sur le marathon déjà, victoire de Poulizac, de Erwan Poulizac qui passe sur la barre des 2h30 chez les hommes. De Gouas, Corinne De Gouas s'impose au finish hein, chez les femmes. Enfin sur le semi-marathon, victoire de Didier Violino, le Poitevin hein, qui s'impose devant Thierry Guibaud, le local de l'étape, Thierry Guibaud qui revenait du marathon de New York, donc il avait déjà pas mal de kilomètres dans les jambes. On écoute tout de suite l'interview de Pierre-Emmanuel Allard hein, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Flash Résultat. Bonne soirée, au revoir.
Culture Sport, tout le sport en Charente, tous les lundis soirs, 19h.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous écoutez Attitude, votre radio 98.3 à Angoulême, Barbezieux et Cognac, 90.7 La Ruffec, et aussi sur www.attitudefm.com et en podcast rubrique sport. Bienvenue dans Culture Sport, votre émission hebdomadaire. Chaque lundi 19h-20h30, nous accueillons Pierre-Emmanuel Allard, directeur sportif de la CFC. Pierre-Emmanuel, merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue.
Bonjour, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver. C'est toujours un plaisir.
C'est un plaisir partagé. Donc, j'accueille également Christian. Bonsoir, Christian.
Salut, Didier.
Bienvenue dans notre émission.
Merci.
J'appelle aussi notre Dédé, notre pilier droit. Bonsoir, Dédé.
Salut à tous.
Bon, en forme, tout va bien?
Tout va bien, oui, ça se passe bien dans la nature, toi, le dimanche, dans les cyclocross, ça va, tout se passe bien dans les meilleures conditions, voilà.
Donc, Pierre-Emmanuel, ce que je te suggère, c'est avant que Christian te pose les premières questions, de faire un retour sur l'année passée, en termes de résultats, de modifications, et ce qui a changé par rapport à l'année passée.
Bah écoutez, pour revenir sur ce nouveau cycle que nous avons entamé la saison dernière, 21-22, avec l'arrivée de David Gigel, notre nouvel entraîneur, et puis de son adjoint à analyse vidéo, Benoît Bizet, on avait l'ambition déjà de... avant de fédérer une équipe, c'était de fédérer aussi le staff, puisque Seb Chaussignan était resté à nos côtés. Moi, je prenais ma position de directeur sportif aussi. Donc, à nous tous de s'entendre, d'apprendre à se connaître, d'apprendre des uns des autres, et puis tout ça pour œuvrer dans un objectif commun. Donc ça a été la première des très très grosses réussites de la saison dernière, qui a permis d'avoir des résultats, à mon sens, qui étaient au-delà des espérances. Puisque on a eu un premier exercice périlleux à négocier avec David, puisque on devait apprendre à se connaître tout en déjà formant une équipe et recrutant chacun de notre côté, et donc c'était un exercice vraiment pas évident qui s'est avéré plutôt réussi hein, au vu de notre belle saison l'année dernière, puisque je le rappelle, on a jusqu'au mois de mars à peu près, on a vibré pour l'éventuelle montée, alors que nous jouons simplement le maintien, en caracolant en tête du moins vers le haut du classement toute la saison. Donc voilà, effectivement, après sur la période d'avril-mai, les deux derniers mois, on a eu une petite panne de carburant, puisque voilà, on a eu aussi pas mal de blessés qui nous ont empêchés de faire tourner l'effectif comme il fallait, et du coup on avait plus de fraîcheur en fin de saison, mais en tout cas ça n'entache en rien cette très belle saison sportive. Donc nous sommes repartis sur cette deuxième partie du cycle, on va dire, ce nouveau cycle avec cette nouvelle saison maintenant 22-23, où après une très grosse prépa de 7 semaines, un mercato extrêmement agité, on pourra revenir dessus puisqu'on a eu des départs subis, on souhaitait seulement se séparer de 4 joueurs, de 4 profils, finalement il y en a eu 11 de parties, donc forcément ça oblige une reconstruction massive, ça change les plans, donc il faut se réadapter. Vous l'avez vu encore hier, on a signé un nouveau joueur, on est au mois de novembre, donc voilà, faut tout le temps être en réadaptation, avec la volonté aussi de proposer d'avoir une autre corde à notre arc dans notre style de jeu, puisque effectivement l'année dernière on était très fort dans les transitions, les contre-attaques, là on voulait être tout aussi bon dans la possession de balle pour pouvoir surprendre notre adversaire. Donc de ce côté-là, on est satisfait. Il manque que les résultats, très sincèrement. Voilà, il manque que les résultats pour venir bonifier tout ça. Mais on est quand même sacrément content de ce qui est fait. Comme je le disais sur les antennes de France 3 lundi dernier, on est quand même sacrément content de ce qui est fait à l'entraînement, de ce que l'on voit dans le contenu de nos matchs, même si les résultats ne tournent pas en notre faveur. Et voilà, il nous manque ce petit but, puisque à chaque fois on perd d'un petit but d'écart sur nos trois seules défaites de championnat. Il nous manque ce petit but, soit pour chipper un point ou pour carrément même prendre les trois points. Donc voilà où nous en sommes, messieurs.
Puisqu'on est dans le mercato, donc il y a 4 joueurs que vous recrutez et il y a 11 départs. Pourquoi ces 11 départs? Parce que vous me dites,
c'est la volonté de se séparer de 4 joueurs et à la place d'en avoir que 4 qui sont partis, il y en a 11. Sinon, oui, on en a recruté autant qui sont partis. Hein.
D'accord.
Voilà.
Et ces 11 départs, vous me dites.
Parce qu'aujourd'hui, la raison de ces 11 départs, et c'est diverses et variées, c'est qu'aujourd'hui, il faut savoir que nous, les garçons National 2, ont majoritairement à 90% des CDD d'un an, tout simplement.
D'accord. Ah oui, d'accord.
Donc tous les contrats sont renégociés à la fin de chaque saison. Aujourd'hui, les salaires en National 2, chez nous en tout cas, il y a quelques ogres dans la poule qui offrent des énormes salaires, mais sinon, chez nous, c'est sûr, homogène. Donc nous, pour à 50 euros près, 100 euros près, il y a des garçons qui préfèrent aller voir dans d'autres clubs et pour avoir un petit billet supplémentaire, parce qu'il faut rappeler quand même que c'est leur métier. Donc aujourd'hui, nous tous salariés, quand on a une augmentation de 50 ou de 100 euros par mois, on est très contents. Donc les joueurs, c'est même acabit. Donc ce qui fait que ça rend le système extrêmement concurrentiel, puisque voilà, on peut perdre un joueur pour quelques euros près. Voilà pourquoi.
Oui, mais je pense que c'était un point important à préciser pour ceux qui nous écoutent.
Je voulais revenir sur ce que tu disais, PE, en précisant simplement que vous aviez terminé cinquième du coup en fin de saison dernière. Je voulais revenir principalement sur l'arrivée de Youssouf Ndiaye, hein, c'est l'actualité brûlante. Est-ce que tu peux nous parler un peu de son profil et de ce que vous attendez de ce joueur?
Alors Youssouf, déjà, son recrutement a été déclenché de par la longue blessure de Benoît Bisson, qui va beaucoup nous manquer, que je salue d'ailleurs, hein, qui est aujourd'hui à Cap-Breton en réathlétisation pour un mois, opération d'il y a 2 semaines.
Et on rappelle qu'il s'est fait les croisés malheureusement lors du match contre Vierzon.
Exactement. Donc c'est une vraie perte pour nous, puisque Benoît a fait une super saison l'année dernière en termes de statistiques, mais aussi de qualité de chacune de ses apparitions. Donc on a voulu pallier le remplacement de Benoît avec un profil beaucoup plus athlétique, hein, puisque hormis Arnaud Buisson au milieu de terrain, on va dire qu'on avait un petit déficit de taille, hein, avec Ben Bark, Elie Ua, Seti Touré, Léo Fichten, qui ont d'autres qualités énormissimes. Donc du coup on cherche toujours un équilibre dans la construction d'un effectif, donc on a voulu pallier ça avec l'arrivée de Youssouf, qui a la capacité de jouer tant milieu défensif en sentinelle devant la défense, que aussi se projeter en étant 8, en étant ce qu'on appelle
un relayeur,
merci beaucoup. Avec Fiki Puisi, il apporte aussi une qualité technique avec son pied gauche. Voilà, donc ça c'était extrêmement intéressant, parce qu'on n'a pas forcément de gaucher à proprement dit dans le milieu de terrain. Donc voilà, on a voulu continuer à étoffer notre effectif, à construire de manière intelligente, et Youssouf répond totalement à ces paramètres-là en apportant des choses que nous n'avons pas, tant athlétiquement qu'avec son pied gauche. Donc et puis en termes d'expérience, puisque Youssouf c'est plus de 15 matchs en Ligue 2, c'est une cinquantaine de matchs en National, donc ça, ce sont des choses qu'on n'a pas dans le vestiaire, donc c'est assez important. Donc voilà comment Youssouf Ndiaye nous a rejoint cette semaine.
Est-ce qu'on peut comparer un peu son profil à celui de Diaghili Dabo qui vous avait rejoint en janvier dernier, un milieu de terrain travailleur longiligne aussi? Est-ce qu'on peut comparer un peu ces deux profils, ou c'est quand même des joueurs qui sont relativement différents?
Alors, je pense que sur le papier, effectivement, par rapport au poste, Diag était capable effectivement de jouer 6, de jouer 8. Je pense qu'avec la qualité technique qu'il avait, Diag, il était même capable de jouer numéro 10, avec un volume de jeu important aussi, effectivement. Après, intrinsèquement, il y a des qualités quand même un peu différentes, et un petit peu plus de puissance du côté de Youssouf, mais un peu plus de technique du côté de Diag. Donc oui, dans les grandes lignes, dans les très grandes lignes, pour faire un repère à nos auditeurs, oui, ça peut être le cas. Ouais.
Avant de parler de la saison et puis des résultats en eux-mêmes, je voulais revenir sur le mercato d'été. Tu en parlais et puis je voulais qu'on développe sur ce sujet. Donc c'est compliqué pour les clubs de National 2. Tu l'as si bien dit que les joueurs avaient des contrats pour la plupart d'un an ou 2 ans au maximum. On le voit dans toutes les équipes de National 2 qui sont des équipes premières, hein. On voit toujours, souvent en tout cas, une dizaine d'arrivées, une dizaine de départs. J'imagine que le mercato d'été, entre guillemets, c'est une période hyper chargée pour vous. Comment vous organisez avec le staff, que ce soit des rendez-vous avec les joueurs qui composent déjà l'équipe, et puis surtout la recherche de nouveaux joueurs pour la saison d'après?
Alors c'est un travail de longue haleine, c'est un travail de toute une saison, puisque effectivement le mercato se prépare et c'est dans sa préparation qu'il est réussi, tout simplement, puisqu'aujourd'hui nous c'est le recrutement, on fait sur la première partie de la saison là dans laquelle nous sommes, sur le premier semestre, on fait une réunion mensuelle là-dessus. Sur cet aspect recrutement, parce que en amont de ça, nous avons établi une fiche de poste par poste, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a des très bons joueurs qui ne correspondent pas à notre manière de jouer, à la philosophie de David. Donc du coup, on a déjà établi par poste ce qu'on attendait d'un latéral, d'un central, d'un milieu de terrain, d'un attaquant, etc., etc. Par la suite, on fait un travail de veille via une zone de chalandise, un peu. Je prends un peu un langage commercial, mais c'est effectivement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on se concentre tout d'abord sur notre poule de National 2, ensuite sur les trois autres poules de National 2, sur la poule de ligue de football Nouvelle-Aquitaine de National 3, et aussi on garde un œil sur la nationale. Donc voilà, on essaie de travailler en supervisant ces formes de chalandises-là. Et tout au long de la saison, on remplit par poste avec notre schéma tactique de jeu qu'on souhaite préférentiel. Et on énumère tout un tas de joueurs que l'on supervise, que l'on suit avec l'énorme travail vidéo de Benoît Bizet, avec nos réseaux, nos connaissances, etc., etc. Ensuite, dans un second temps, quand on se rapproche de la période fatidique, hein, plutôt sur le deuxième semestre de la saison, on commence à prendre contact avec les garçons. Parce qu'une fois qu'on a validé, on va dire, le footballeur, le plus important reste à faire, c'est l'humain. Et ça, pour ça, il faut superviser, il faut se dévoiler, il faut aller le voir, il faut le rencontrer, il faut discuter, il faut échanger. Et là-dessus, à chaque fois, obligatoirement, chaque joueur qui est arrivé chez nous, et David et moi-même, l'avons eu chacun notre tour au téléphone. Voilà, de manière individuelle, chacun de notre côté. Et ensuite, on débrief ensemble sur nos ressentis, sur comment a réagi le garçon en fonction de la présentation du projet, ce qu'on souhaitait faire, comment on souhaitait le faire, etc., etc. Et à partir de là, on a une réunion avec le président et soit on y va, mais quand on y va, c'est tous les trois parce que nous sommes tous les trois d'accord. Voilà, tout simplement. Et puis derrière, il y a la phase de négociation qui est faite où parfois on a le bonheur de tomber d'accord, parfois on ne tombe pas d'accord financièrement, contractuellement. Et donc ensuite, nous signons pas le joueur. Voilà comment ça se travaille, mais c'est vraiment pas un travail seulement de mai à août, hein. C'est un travail permanent, quotidien et qui on reste en veille chaque semaine.
D'ailleurs, pour avoir un ordre d'idée, sur 11 joueurs recrutés, combien de joueurs ont été supervisés à peu près?
Tous, ils ont été supervisés. Enfin,
je veux dire, combien de joueurs en plus il y avait dans vos petits papiers, entre guillemets?
Ah, nous, en tout, sur le premier listing, le tout premier listing, il y avait 62 joueurs.
D'accord.
Sur vraiment le tout premier listing, il y a 62 joueurs. Après, on a fait un deuxième listing avec 35 joueurs. Donc, pour arriver ensuite à une dizaine de recrues.
Et puis, il y a les recrues donc, qui arrivent de nouveaux clubs, mais il y a aussi le premier recrutement qui est le recrutement interne avec à la fois les joueurs qui étaient présents la saison dernière et qui re-signent, et puis certains jeunes qui sont promus ou qui collaborent également avec le groupe de la première. C'est aussi important ça d'avoir une certaine continuité au fil des saisons, même si c'est un nouveau projet qui redémarre avec l'arrivée de David Jiguel.
Alors tu fais très bien de le préciser, parce que là je vous ai parlé que du recrutement externe, mais notre priorité la saison dernière, tu as raison Christian, merci de cette passe décisive, c'est effectivement de conserver nos garçons avec qui nous sommes ravis d'avoir vécu une belle saison, et effectivement parce qu'on reste un sport collectif. Et comme tout sport collectif qui se respecte, eh ben il faut fédérer une équipe, que les joueurs soient convaincus du plan de jeu, soient respectés, etc., etc. Et ça, malheureusement, plus il y a de changement dans une équipe, plus tout est à recommencer. C'est normal, c'est naturel. Donc effectivement, il y a l'ambition d'abord de conserver nos garçons avec qui que l'on connaît. Parce qu'en fait, le recrutement, pour moi, c'est la réussite d'un recrutement. L'objectif d'un recrutement, c'est de limiter l'incertitude, de limiter le risque, parce qu'effectivement il y a une prise de risque sur chaque nouveau joueur que l'on fait venir, parce que même si on est persuadé que c'est un bon garçon, que c'est un bon footballeur, qu'il a enchaîné les matchs, donc physiquement il tient bien et qu'en plus de ça il a le niveau pour jouer chez nous, et ben malheureusement il y a le facteur X qui fait qu'il ne peut ne pas s'entendre, ne pas se sentir bien chez nous, quoi que ce soit, et donc ne pas avoir la même réussite qu'il a pu avoir ailleurs. Donc pour limiter cette incertitude là effectivement, il faut privilégier d'abord nos joueurs, ceux que l'on connaît, et puis ensuite réussir le recrutement externe. Ouais, tout à fait.
Vous avez choisi Attitude 98.3 et 90.7, mais aussi AttitudeFM.com. Merci de votre fidélité. Vous écoutez Culture Sport, votre émission des sports, le lundi 19h-20h30. Nous retrouvons notre invité Pierre-Emmanuel Allard, directeur sportif de la CFC, qui répond aux questions de Christian et Dédé. C'est à vous, messieurs.
Sur le recrutement, quand vous dites il faut que le joueur corresponde au club qui s'habilite au club, comment vous pouvez vous d'abord contacter le joueur et comment vous faites pour cet entretien là, parce que je suppose que l'entretien ne se fait pas en une heure, en deux heures, comment vous procédez?
Eh ben c'est là où c'est un travail, effectivement, c'est fait partie des tâches complexes, c'est de récupérer les coordonnées du joueur. Donc pour ça, bon, mine de rien, le foot français, ça reste une grande famille parce que tout le monde a déjà joué avec tout le monde. Donc déjà, on s'appuie déjà sur nos propres joueurs là encore qui ont été soit copains de vestiaire avec la cible ou alors qui ont un ami en commun ou un ancien coéquipier en commun. L'enjeu est d'abord de récupérer les coordonnées, tout à fait. Après, il y a aussi un respect vis-à-vis des clubs dans lesquels ils sont. Donc nous, on essaie aussi d'avertir, surtout avec des confrères, hein, quand on connaît bien l'entraîneur qu'on apprécie en face. Bon, on essaie de le prévenir en lui disant, écoute, on aimerait bien contacter ton joueur, parce qu'il y a aussi quand même une
conduite. Un respect.
Exactement. D'accord. Mais c'est vrai que c'est le plus compliqué.
On a ébauché un peu les contours du mercato. On va forcément maintenant en revenir aux hommes. Tu parlais tout à l'heure de limiter l'incertitude. Il y a quand même des visages connus qui vous ont rejoint. Le premier, j'ai envie de dire que c'est un retour au club, puisque c'est Patrick Sincheu qui revient au club. Patrick a joué un an à Angoulême. Il est parti à Beauvais, puis à Bayonne. Et là, il est revenu. D'ailleurs, l'un des héros des tours de Coupe de France de cette saison. Il y a aussi Kevin Cardinali, hein, qui est l'un des meilleurs buteurs de la poule où évolue la SFC depuis plusieurs saisons. C'est l'une des valeurs sûres de National 2. Et puis, il y a enfin un visage connu de d'Angoulême l'an dernier, l'arrivée de APK, moi je l'appelle comme ça, hein, André-Patrick Kayoubi, qui a évolué l'an dernier au Puy, qui a fini d'ailleurs champion avec son équipe du Puy, et qui d'ailleurs rejoint donc la SFC cette saison. Déjà, ça, c'est des joueurs qu'on a pu voir jouer à Lebon ou que tu connaissais du fait que Patrick jouait au club, donc ça, c'est des valeurs sûres, entre guillemets.
Alors, c'est trois excellents cas et trois excellents exemples, puisque pour Patrick Sincheu, là, c'est un super travail collaboratif, puisque c'est une idée de Julien Loger, notre entraîneur des gardiens de but, qui l'avait coaché il y a la saison 2019-2020, lorsqu'il était déjà venu chez nous, Patrick. On cherchait un garçon qui était capable d'accepter d'être numéro 2, parce que chez nous, pour mettre en confiance les gardiens, on préfère être très clair sur la hiérarchie, donc tout le monde ne l'accepte pas. Donc, on cherchait un garçon qui était capable d'accepter ça, de se mettre au service du numéro 1 et à la performance du numéro 1 et du collectif en général, tout en étant le plus compétitif possible, en se donnant, parce que le rôle d'un numéro 2, il est décisif. Pour moi, c'est l'un des rôles dans le vestiaire le plus important, puisque c'est un garçon qui conditionne la qualité des entraînements, c'est un garçon qui conditionne la motivation des garçons en avant-match, d'avoir un bon état d'esprit, c'était primordial. Et Juloge a eu cette formidable idée où, quand il m'a proposé ça, clairement, j'ai dit, putain, Jules, c'est d'enfer, le profil, moi, connaissant Patrick, j'ai adhéré directement, et là-dessus, David nous a fait confiance, et on en est ravis, puisque Patrick a joué pas mal de matchs, que ce soit en coupé en championnat, et a été très, très, très bon. Ouais. L'entente avec Alan est bonne aussi, donc c'était une belle opération, un beau travail d'équipe, et encore une fois, il faut rendre à César ce qui appartient à César, et c'était une très bonne idée de Julien Loger. Pour ce qui est Kevin Cardinali, lui, typiquement aussi, c'est un bon exemple, puisque c'est un garçon avec qui on discute depuis 3 ans. Ça fait 3 ans qu'on parle avec Kevin. Donc lui, c'est un pur Toulousain formé au TFC, qui a ensuite joué à Castanet, qui jouait à Colomiers. Colomiers descendant la saison dernière, il avait l'envie de continuer à jouer en National 2. Bon, faut savoir que Kevin Cardinali, c'est entre 10 et 15 buts depuis des années, chaque saison. Donc c'est vraiment une valeur.
Dont plusieurs contre Angoulême, malheureusement.
Oui, ouais, il a vu. On joue encore, hein, je lui ai dit. Je dis qu'il nous joue pas mal de buts, hein, vu tout ce que tu nous as mis dans la tronche.
Que ce soit d'ailleurs avec Colomiers et avec Castanet, hein, les deux. Il a fait mouche à chaque fois.
La saison 2015-2016, effectivement.
Ouais, effectivement. Cette défaite 3-2 à Castanet qui a fait très mal. Non,
mais 2-1 et Kevin Cardinali est passé par là.
Ouais.
Donc lui, typiquement, c'est un garçon avec qui on a entretenu une relation à distance depuis un bon nombre d'années et qui nous a fait confiance en nous rejoignant, et c'est un vrai bonheur de l'avoir dans nos rangs. Et puis pour ce qui est de André Patrick Kayoubi, là lui c'était c'est marrant parce que bon, David notre entraîneur des JDL est extrêmement motivé et déterminé dans sa zone technique lors des matchs.
Et c'est un peu fighté avec
c'est toujours compliqué pour les joueurs de couloir, les latéraux ou ailiers, parce qu'il y a une mi-temps sur deux ils vont devoir croiser notre entraîneur.
Effectivement.
Et puis il y a eu un échange plutôt sympathique, mine de rien, viril mais correct entre les deux hommes. Et c'est vrai que Kayoubi, lui, avait apprécié le discours de l'entraîneur et avait la volonté de jouer pour David. Et c'est ce qui l'a motivé à venir chez nous, malgré la montée au Puy, où il aurait pu essayer de jouer en national avec le Puy, puisqu'il a été champion avec cette équipe-là. Et bien, il nous a rejoint, et là aussi c'est un plaisir de recevoir un joueur qui est déterminé à travailler avec son entraîneur et à mouiller le maillot pour lui. Donc voilà, trois beaux exemples de recrutement qui, on le sait, on en est persuadé, feront les beaux jours du club avec le reste de leurs coéquipiers pour cette saison.
Oui, d'ailleurs lui-même le dit dans le dernier numéro des coulisses du vestiaire, donc c'est une web-série que vous avez lancée depuis la saison dernière, qui est disponible tous les mercredis, en tout cas les mercredis où il y a du championnat. Et lui-même le dit, il a vanté les mérites, notamment les causeries de David Gickel, qui sont entraînantes et qui sont de qualité. Pour continuer sur les recrues, donc il y a aussi des valeurs sûres des joueurs qui sont aguerris au National 2. Je pense à des joueurs comme Arnaud Buisson, qui évolue en N2 depuis très longtemps, à Grasse, à Fréjus Saint-Raphaël et à Hyères, et à Toulon aussi, et Gottfried Bekwe, qui arrive de Haguenau, mais qui a joué en N2 depuis plusieurs saisons. Et après, il y a peut-être, alors je sais pas si on peut les appeler des paris, mais des joueurs qui ont joué hors de France et qui reviennent depuis peu dans l'Hexagone, des joueurs comme Alan Hoguel, ou des joueurs qui vous ont rejoint plus tardivement, parce qu'il y a eu malheureusement des petites années croches, je sais pas trop si on peut appeler ça des années croches, mais il y a eu des contretemps, et ça fait qu'il y a des joueurs qui vous ont rejoint plus tardivement, notamment Johan Marmot, l'international guyanais, qui évolue à Bastia Borgo, et puis donc on l'évoquait en début d'émission, Youssouf Ndiaye, qui arrive lui de Lyon, là du Gers, quand il était sans club, il a terminé son contrat au mois de juin. Donc effectivement, un mercato très agité. Je veux simplement parler également des joueurs qui n'ont pas continué avec la CFC. Donc il y a Enzo Poché, que malheureusement on a croisé le week-end dernier avec Bergerac, Charlie Dutournier, qui est parti du côté de Belfort et qui a été d'ailleurs à Tahiti, je crois, avec son équipe récemment pour jouer en Coupe de France. Il y a Adama Diakité, qu'on a croisé également, qui est parti à Trélissac, Igor Bandu, qu'on a également croisé du côté de Vierzon, et Jorginho Mvondo, qui est aussi parti à Vierzon. Et puis il y a d'autres joueurs qui n'ont pas souhaité continuer avec la CFC, Clément Jolibois, qui est parti à Créteil, et notamment Diaghili Dabo, qui est parti du coup à Alès. Voilà, je te laisse enchaîner, PE.
Ouais, bah après il y a Tafadiaï aussi, qui avait.
Oui, tout à fait.
Qui m'a appelé la veille de la reprise de l'entraînement pour me dire, écoute, je voudrais arrêter le foot, je voudrais passer à autre chose, etc. Bon, finalement, il a réenquillé en signant à Sannois-Saint-Gratien en National 3. Donc Tafa, qui était notre capitaine, notre homme de vestiaire, sur qui on comptait beaucoup. Donc bon, ça nous a mis un peu en difficulté. Il y a Moussa Kouyaté aussi, qui a souhaité partir au FC 7 en plein milieu de la prépa.
Oui.
Voilà. Donc,
j'ai pas cité d'ailleurs Baba Touré non plus. Donc Baba Touré aussi, qui est arrivé de Toulon, défenseur central, et qui du coup justement a contrebalancé numériquement le départ de Moussa Kouyaté de Tafa.
Ouais, c'est ça. Donc voilà, faut tout le temps être sur le qui-vive, toujours être prêt à réagir, parce que comme je disais, les garçons ont des contrats qui leur permettent de partir à tout moment. Faut savoir que nous, là, il y a pas de période de mercato comme les professionnels, c'est-à-dire que les pros, c'est l'été et l'hiver, il y a deux sessions. Nous, c'est du 1er juillet au 31 janvier. À tout moment, les joueurs peuvent partir du 1er juillet au 31 janvier. Donc ça, c'est une règle extrêmement contraignante. C'est qu'à tout moment, le garçon, s'il le souhaite, il demande son départ, et ça peut être réalisable. Donc voilà. Donc c'est pour ça que on ne dort pas. On peut pas. C'est pas permis. Voilà.
C'est un exercice assez difficile, ce que tu nous exprimes là, Pierre-Emmanuel.
Ouais, extrêmement difficile, parce que Bah parce que voilà, encore une fois, on a l'ambition de gagner, mais de gagner avec la manière, c'est-à-dire de vivre une belle épopée, une belle aventure humaine. Et pour ça, ben voilà, le recrutement, ça peut. Nous, les joueurs, c'est ce que je dis tout le temps, avant d'être des joueurs de football, c'est des individus à part entière. Donc on se doit de bien les traiter, qui de faire respecter leurs droits, tout en aussi leur imposant les devoirs qu'ils ont vis-à-vis du club. Donc on peut pas traiter les joueurs prendre n'importe qui n'importe comment, c'est pour ça qu'il y a un gros travail de préparation qui est fait. Et parfois on est un peu court parce que quand il y a des surprises, quand on vient taper à notre bureau, qu'on nous annonce que le joueur souhaite partir, des fois on est souvent pris de court. Donc il faut savoir rebondir et puis tout en ne pas courir à la précipitation, ne pas recruter n'importe qui n'importe comment, et que ça reste une valeur ajoutée humaine et sportive pour le vestiaire.
Vous avez choisi Attitude 98.3 et 90.7, mais aussi attitudefm.com. Merci de votre fidélité. Vous écoutez Culture Sport, votre émission des sports, le lundi 19h-20h30. Nous retrouvons notre invité Pierre-Emmanuel Allard, directeur sportif de la CFC, qui répond aux questions de Christian et Dédé. C'est à vous, messieurs.
Par rapport aux sportifs, là, donc je vais commencer un peu à évoquer la saison. Mais déjà, avant la saison, il y a un paramètre nouveau qui entre en compte, c'est 5 relégations, voire 6 même, puisque je crois que sur les 4 poules de N2, il y aura les 3 moins bons 11e qui vont descendre, donc on peut considérer qu'il y a pratiquement 6 descentes par poule. Déjà, quand on prend rien que ce paramètre en compte, j'imagine que, alors je sais pas si ça change la donne, mais en tout cas, ça apporte une certaine pression.
Ah non, mais c'est faut effectivement, tu fais très bien de préciser ce nouveau paramètre qui est quand même incroyable. Déjà, faut savoir que la National 2, c'est de ce que disent les pensionnaires de National, voire même de Ligue 2, c'est pour eux le championnat le plus compliqué, parce qu'il y a qu'une seule montée, il y a 3 descentes en temps normal.
Ouais, c'est vrai.
Donc c'est le championnat le plus compliqué. Voilà, ouais. En Ligue 1, en Ligue 2, voilà, il y a 3 montées, il y a certes des barrages, mais voilà, il y a 3 montées potentielles. Là en National 2, il y a qu'un seul champion et il y a que la première place qui compte. Le reste, il n'y a pas d'enjeu d'être deuxième ou sixième. Et là, qui puisse dire, on vient de nous rajouter un nouveau paramètre avec 6 descentes. C'est énormissime. Faut savoir que la National 2, c'est un championnat extrêmement homogène sur le terrain. Dans la structuration des clubs, c'est extrêmement hétérogène, hein. Il y a tout type de clubs. Mais par contre, sur le terrain, c'est extrêmement homogène. C'est-à-dire que tout le monde peut se regarder dans les yeux et tout le monde peut taper tout le monde. Et on le voit.
Surtout dans notre poule.
Surtout dans notre poule, et on voit que chaque année, il y a des équipes qui sont concernées par la montée et la descente très tardivement dans la saison. Ben là, cette année, on en reparlera en fin de ce championnat, mais ça va être le cas encore une fois, mais ça va être encore pire. Ça va être extrapolé, je pense, puisque vous verrez qu'à l'avant-dernière journée, il y aura des clubs qui mathématiquement pourront soit monter, soit descendre. Donc effectivement, on l'a ressenti d'ailleurs dans le mercato de cet été, puisque ça a été la course à l'armement dans les clubs de N2. Tout le monde a essayé de se renforcer, tout le monde a essayé d'étoffer l'effectif. Et effectivement, il y a cette pression-là, mais on est préparé à ça. On est préparé à ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, effectivement, il nous manque 2-3 points par-ci par-là qui nous permettraient d'avoir un peu plus de sérénité. Mais nous, on n'est pas du tout inquiets, mais pas du tout, du tout, du tout. On le savait que ça serait comme ça. Donc les gens aujourd'hui, ils se disent ouais, mais l'année dernière, vous étiez premier, et là non. Oui, c'est un nouveau championnat, et puis peut-être qu'on fera une meilleure deuxième partie de saison qu'une première, ce qui a été l'inverse l'année dernière. Donc on est préparé à ça, l'enjeu c'est de rester serein, de continuer à garder sa ligne de conduite, et c'est pour ça que quand on travaille comme le staff travaille, on ne peut que augmenter la maîtrise que l'on a sur les performances et les futurs résultats à venir. Donc encore une fois, il y a pas d'inquiétude, et ça va être à la sueur du front qu'on ira décrocher dans un premier temps le maintien, puisque je vous dis, on aura la validation du maintien que très 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 tardivement dans la saison, si on arrive à l'obtenir. Donc ça va, voilà, ça va être une saison où il va falloir s'accrocher, hein, on va vibrer, hein, je vous le dis.
Les résultats en championnat sont quand même à nuancer, dans le sens où il y a ce premier match contre Saumur où Angoulême perd 3-0 à la 25e minute, finalement 4-3 sur un coup franc à la 96e minute. Donc on va dire que ça partait alors très mal, oui et non, parce qu'au final ça reste une défaite qui reste 29 passes derrière, mais c'est vrai que le contre-coup moral était un peu, enfin c'était vraiment un scénario très compliqué, et c'est vrai que derrière vous arrivez quand même à réagir à faire plusieurs matchs sans casser de but. Et finalement, quand on prend le classement, alors certes, Bergerac le week-end dernier a marqué deux buts et est passé devant au tableau d'affichage, mais c'est vrai que si on prend le classement à la demi-heure de jeu, ben vous êtes cinquième, vous êtes top 5, donc ça reste un début de saison qui n'est pas où tout n'est pas acheté en tout cas.
Non, mais il y a rien qui est acheté, au contraire. Et puis de toute façon, des défaites, on apprend toujours. Mais vous voyez, Saumur, ça, pour moi, ça caractérise vraiment qu'est-ce que le football. C'est-à-dire que bon, on peut bien travailler, y mettre toute la meilleure des volontés.
Bien sûr.
Quoi qu'il arrive, qu'à la fin de la semaine, il y ait un gagnant et un perdant. Certes, il peut y avoir des matchs nuls de temps en temps, mais il faut qu'il y ait un gagnant et un perdant. Les matchs de Saumur, c'est le premier match de championnat. On fait 7 semaines de préparation. Je suis en permanence avec le groupe. Je le vois travailler. Il y a personne qui a triché. Tout le monde a vraiment énormément bossé en pleine canicule qui puisait. Saumur, on s'est déplacé 2 fois avec Benoît et David pour aller les observer. On a fait 2 fois 8 heures de route pour aller notamment à Stablé-sur-Sarthe où ils faisaient un match amical pour les observer de nos propres yeux et pas uniquement en vidéo. On a préparé le match de la meilleure des manières. Il n'y a pas eu, parce que c'était des promus, il n'y a pas eu un manque d'humilité du tout, en aucun cas. Ce match a été pris avec le plus grand des sérieux qui puisait, c'était à domicile, donc on avait l'envie, chaque nouvelle recrue avait l'envie de montrer leur qualité, les anciens avaient l'envie de confirmer la bonne saison dernière, et on se retrouve à la 24e minute de jeu à perdre 3-0 sur notre terrain. Je vous explique pas, en termes d'émotion, ce que ça génère dans chacun d'entre nous. C'était incroyable, c'était d'un point de vue négatif, hein, malheureusement. Mais voilà, c'est ça. Et puis, malgré tout, les garçons ont montré une force de caractère énormissime en revenant à 3-3. Et après, ben voilà, il y a ce coup franc à la 94e d'Emmanuel Bourgault, qui est un ancien joueur de professionnel,
Ligue 1,
qui avait fait pareil avec Amiens, qui avait envoyé Amiens en Ligue 1 à la dernière seconde de la saison, en marquant le même type de coup franc. Et ben voilà, on s'est fait crucifier, on perd 4-3. Et ben ça a été un mal pour Amiens, parce qu'on a énormément construit sur cette défaite, on a pu énormément échanger avec les garçons et derrière on enchaîne 2 clean sheets en encaissant 0 but. Donc voilà, c'est ça la difficulté du football, c'est que même quand on travaille bien, et ben il faut toujours se remettre en question parce que le résultat n'est pas forcément là. Et même quand le résultat est là, faut encore plus se remettre en question parce que l'enjeu c'est de générer les autres prochains résultats. En fait, dans le foot, tout ce qui est passé sert à rien quoi. Ce qui compte c'est le rebond, qu'il soit positif ou négatif. Il faut toujours rebondir, toujours avancer. Donc voilà. Donc on continue dans cette lignée là.
Et puis le match le plus important, c'est le match qui vient ce week-end à chaque fois.
Exactement. Et c'est voilà, peu importe qu'on soit en bas, en haut du classement, c'est toujours comme ça. Toujours comme ça. Ce qui est fait n'est plus à faire et faut regarder devant.
Au vu de ces premiers matchs, Pierre-Emmanuel, tu dirais quoi au sujet de l'équipe, point fort, point faible, s'il y en a?
Oui, bon, ça il y en aura toujours. Hein. Sinon, tant qu'on n'aura pas gagné la coupe aux grandes oreilles de la Ligue des Champions,
on peut rêver.
On aura toujours des points forts et des points faibles. Donc non. Aujourd'hui, nous notre point faible actuel du moment, c'est qu'aujourd'hui nous avons trop de joueurs blessés, qui fait que on ne peut pas pendant le match apporter de la fraîcheur avec des remplaçants, avec des choix des remplacements qui permettraient d'apporter une valeur ajoutée, comme ça a été le cas contre Trélissac où ils font trois changements, trois valeurs ajoutées. Comme ça a été le cas aussi pour Bergerac, avec l'entrée d'Hamilton Beltrán qui nous marque ce deuxième but, hein, qui permet à Bergerac de prendre l'avantage. Aujourd'hui, on a trop de blessés. Alors, ça permet aussi de faire jouer les jeunes. Donc, ça, c'est génial parce qu'on reste un club formateur. Donc, ça, c'est top. Mais sauf que des fois, c'est pas non plus rendre service aux jeunes, de les faire rentrer dans certaines configurations de match. Donc, aujourd'hui, le gros point faible, c'est ça. C'est qu'on a trop peu de joueurs valides. Donc, ça va revenir, hein, petit à petit. Voilà, on a des retours au fur et à mesure. Hein. Sauf que, du coup, on paierait l'IEUA pour suspension, Thierry Lemaitre pour suspension. Donc, là encore, la feuille de match va être réduite. Donc ça, c'est le gros point faible. Le point fort, c'est qu'aujourd'hui, par rapport à la saison dernière, on est capable de faire et de la transition et de la possession. Et ça, c'est un vrai point fort. Aujourd'hui, dans l'utilisation du ballon, c'est extrêmement intéressant. Vous prenez le but qu'on marque contre Trélissac, par exemple, où on égalise contre Trélissac. C'est pas le but, hein, parce que c'est sur un corner.
C'est sur un corner, ouais.
Une tête de Lemoni.
Mais c'est l'action qui amène au corner.
Exactement. L'action qui amène le corner. Bon, ben, on part de derrière. Il y a au moins une dizaine de passes et ça finit sur une occasion de but avec un corner et puis derrière le vrai but de l'égalisation. Donc ça, c'est vraiment notre point fort, d'être capable aujourd'hui d'avoir deux cordes à notre arc et de proposer deux styles de jeu. Maintenant, l'enjeu, c'est d'arriver à moins avoir temps faible dans le match, c'est-à-dire que voilà, qu'on puisse tenir 90 minutes, voire plus, et maintenir ce niveau d'intensité-là, comme on a été capable de le faire à Angers, où on est allé battre le leader chez lui 1-0 sur sa pelouse, en maintenant ce niveau d'intensité. Si t'es là.
Tu parlais du but de Trélissac, il faut quand même rappeler qui l'a marqué ce but.
Ouais, c'est le très cher, le Coco Lémoni, Corentin Lémoni, notre latéral.
Qui d'ailleurs n'avait jamais marqué avec Angoulême.
Bah non, ce que je dis,
Il avait failli marquer l'an passé un but magnifique, superbe contre les Herbiers, une frappe de l'extérieur du pied qui va sur la barre, et puis bah là du coup il a marqué sur le corner. D'ailleurs, moi-même, je l'ai pas forcément cru que c'était lui au départ quand il a marqué. Je me suis dit, c'est Coco.
Christian, je l'ai su qu'à travers Xavier Duchesne, notre speaker, qui l'a annoncé. Ouais. Parce que, j'étais plutôt préoccupé parce que tout match de coupe, on revenait à la marque, donc rien n'était gagné. Donc, j'étais plutôt préoccupé c'est toujours difficile de célébrer des buts quand on sait que bon, il peut tout se passer dans ce genre de match. Donc, on a eu le succès modeste sur ce coup-là. Et effectivement, ouais, j'étais ravi pour Coco, puisque voilà, Coco aujourd'hui il a une situation particulière au club parce qu'il est également, il se forme aussi au métier de commercial et chargé des partenariats, donc c'est quelqu'un avec qui je partage plus que le terrain, puisqu'on est aussi ensemble dans le projet du club sur l'aspect commercial. Donc ouais, moi j'étais ravi pour lui parce que c'est, il nous fait bien rire au quotidien. C'est un garçon qui c'est ce que je le chambre, il devient de plus en plus charentais, de moins en moins du Cantal, de son Cantal natal.
Ah, il a quand même gardé son numéro 15.
Ah, il a gardé, mais il lui reste plus que ça, sinon il est charentais. Non, je le chambre beaucoup avec ça. Donc ouais, c'était un plaisir de le voir marquer. En plus, c'était un but très important parce qu'il nous permettait de revenir à la marque. Donc enfin, Coco a marqué, a fait trembler les filets de enfin.
On comprend mieux sur le fait que le début de saison est compliqué. Avec 11 nouveaux joueurs dont certains vous préviennent la veille pour le lendemain, donc c'est très compliqué évidemment de pouvoir être opérationnel dès les tout premiers matchs. Et puis la deuxième que j'avais, c'est aussi que dans votre poule vous avez des équipes B comme Nantes où en fin de saison ils peuvent évidemment renforcer l'équipe B.
Ouais, c'est ça, exactement. Vous voyez, c'est très bon exemple encore une fois. Décidément, vous préparez vraiment bien vos émissions. Hein. Franchement,
écouter tout ça. Énumère-nous les joueurs d'Angers qu'on joue contre vous. C'était assez impressionnant l'équipe qu'ils avaient alignée.
Ouais, tout à fait. Et puis, vous voyez, là, le FC Nantes, vous savez qu'on aime bien demander aux adversaires de jouer le vendredi soir pour des questions d'événementiel au stade. On attire plus de monde le vendredi que le samedi. Et vous voyez, le FC Nantes a refusé de jouer le vendredi parce que Antoine Bonnefoy, entraîneur d'équipe première, souhaite envoyer le maximum de joueurs possible le samedi venir jouer contre nous. Donc il y a un vrai enjeu de compétitivité aussi pour les équipes réserves. Donc Angers pareil, il y avait 3 à 4 professionnels qui ont joué contre nous. Donc Lorient, on y va fin novembre, ça va être compliqué. Vous voyez, Lorient va jouer aussi sur le stade du Moustoir, sur le stade principal. Donc s'il est laissé la réserve, il ferait pas ça. Typiquement. Donc, vous avez raison, les réserves, c'est extrêmement difficile à négocier, qui plus est, au fil de la saison, tout le monde ne joue pas face au même effectif. Il y en a qui ont un peu plus de chance que d'autres. Voilà. Donc, c'est un facteur X qui vient nous impacter fortement. Ouais, tout à fait.
Et on comprend mieux le début de saison compliqué que vous avez eu, puisque 11 joueurs, dont les uns et les autres, en fonction évidemment des demandes extérieures, vous ont quitté. Donc après, il faut, comme vous le disiez, il faut après chercher, c'est compliqué, puis les entraînements, même si on en fait 7, qu'il y ait 2 ou 3 joueurs pendant cette période de stage qui quittent l'effectif, c'est compliqué.
Ouais, après tout s'explique, mais après on cherche pas d'excuses pour autant.
Non, mais bon.
Ça. Effectivement, vous savez, le football, on le voit.
En tant que spectateur, on peut se poser la question pour quelle raison la CFC n'a pas de résultat, pour quelle raison on s'est séparé de lui. C'est bien ces émissions-là pour savoir justement la vérité, quoi.
Tout à fait, c'est pour ça que je vous remercie de votre invitation, parce que moi, tout est transparent, donc j'adore communiquer, cette affaire qu'on explique et que après on comprend pas, c'est encore autre chose, mais au moins faut expliquer les choses, tout à fait. C'est le football, de toute façon, il y a que le résultat qui compte. On a beau dire ce qu'on veut, les gens, même les pros, les puristes qui adorent voir le beau jeu, ok, d'accord, moi aussi j'adore ça, je suis un passionné, j'adore voir des schémas de jeu entreprenants, j'adore voir des gestes techniques, etc. Sauf que on a beau dire ce qu'on veut, c'est comme pour la Coupe du Monde qui va débuter dans quelques jours maintenant. Ce qu'on retiendra, c'est les Bleus qui sont qualifiés et qui ont gagné la Coupe s'ils la gagnent. Voilà, parce qu'on sera content, parce qu'on sera, ça sera la possibilité de faire une super fiesta, une super soirée avec nos amis respectifs et puis de jouer encore le tour d'après. Donc il y a que ça qui compte. Il y a que ça qui compte, c'est la victoire. Donc oui, je suis sûr que les gens sont en attente de ce côté-là.
Vous êtes, c'est Culture Sport, votre émission. Chaque lundi de 19h-20h30, nous retrouvons Pierre-Emmanuel Maillard, directeur sportif de la CFC, qui répond aux questions de Christian et Dédé. Dédé, c'est à toi, mon grand.
En ce qui concerne la Coupe de France, qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut, quand on joue contre un ancien entraîneur comme Hervé Loubat, je pense que ça fait chaud au cœur quand même de soit de recevoir, même de perdre. Enfin, comment vous abordez ces matchs-là, vous qui connaissez bien l'entraîneur?
Alors effectivement, avec Hervé, on se connaît sacrément bien, bien sûr. Depuis 5 belles années tous ensemble. Bien sûr. On a connu des moments compliqués, des moments de joie, des moments de bonheur. Donc forcément, ça tisse des liens qui ne s'effaceront jamais, inévitablement. Après, un match de Coupe de France, c'est toujours à part. C'est toujours un.
Oui, mais vous jouez en Coupe de France et vous jouez en championnat. Hein.
Ouais, c'est pour ça que c'est toujours à part, c'est toujours unique. Donc pour tout vous dire, 2 secondes après le tirage au sort, on était au téléphone ensemble avec Hervé, à rigoler, etc. Parce qu'on était ravis de pouvoir se retrouver le temps d'une rencontre qui puisait la Coupe de France. On sait qu'Hervé a fait énormément d'exploits en Coupe. Oui. C'est une compétition qu'il affectionne particulièrement. Nous, de notre côté, la Coupe de France, elle nous fait rêver parce qu'on vit des moments uniques. Donc voilà, de se retrouver dans un contexte comme ça, c'est super sympathique. C'est super sympathique. Après, quand c'est le match, c'est la guerre. C'est chacun défend ses couleurs, son logo. Et ce qui compte, c'est d'éliminer l'équipe en face. Donc c'est tout le paradoxe, encore une fois, qu'on peut vivre que dans le football, quoi. C'est que tout de suite après, on se retrouve, on s'est souhaité bon match, à se prendre dans les bras en rentrant sur le terrain, en étant dans le tunnel, et puis 2 secondes après, c'était la guerre, quoi. Donc c'est.
Ouais, mais ce que j'ai apprécié, moi, justement, c'est ça, cette mentalité que vous aviez entre Trévisac et puis la CFC. On n'aurait pas cru que vous étiez des adversaires, parce que avant le match, je parle qu'il y a la convivialité, l'esprit d'équipe aussi. Donc, moi, c'est ce que j'ai trouvé de bien par rapport au message que j'ai pu lire.
Ouais, non, mais c'est faut pas avoir la mémoire courte. Dans le football, on a trop souvent la mémoire courte. C'est le gros problème du foot, c'est que on tire sur les gens quand ils ont fait un truc pas bien, mais on oublie les 10 belles choses qu'ils ont faites avant. Donc là, l'idée, c'est de pas avoir la mémoire courte, d'être juste aussi dans le jugement. Aujourd'hui, Hervé est un adversaire, c'est indéniable, mais ça, c'est sur le terrain et ça s'arrête.
Voilà, très bien.
Voilà.
À propos de l'humiliation contre Trélissac, Pierre-Emmanuel, c'était quelque chose. Est-ce que vous aviez planifié un parcours sur cette Coupe de France 2022-2023?
Ah non, parce que la Coupe de France, c'est Hervé qui nous a éduqué à ça, et puis David a le même discours. C'est d'abord l'aventure des joueurs, c'est d'abord une aventure humaine, c'est voir, faut que ça vienne du groupe, faut que ça vienne des tripes, et qui puisait, c'est celui qui planifie un parcours, déjà il échoue forcément, parce que c'est impossible, parce que qu'importe l'adversaire en face, déjà il y a un tirage au sort à chaque tour.
Moi pourtant je vous attends en finale, hein.
Ouais, mais toi Christian, t'es trop bienveillant avec nous. Non, mais c'est à chaque tour, c'est on vit, on meurt dans cette compétition. Qu'importe l'adversaire en face. On est allé à Tulle, on a été mené 1-0 avant de remporter, de se qualifier. À Caponis, pareil. Porte entre deux mers, c'est pareil. On a été mené 2-1. Donc on peut se faire sortir à tout moment. Donc c'est impossible de planifier quoi que ce soit. Là, contre Trélissac, on a dû se départager au tir au but. Vous imaginez d'aller au tir au but sur un exercice où les garçons, c'était un match extrêmement intense devant 1200 personnes avec une atmosphère qui a augmenté un peu le niveau de concentration, le niveau de d'implication, etc. Et puis on se retrouve à se départager sur un exercice extrêmement compliqué où c'est presque du pile ou face, quoi, la tir au but. Il y en a qui disent ouais non, c'est un exercice technique. Ouais, bah écoutez, j'aimerais vous y voir. Poser votre ballon après 90 minutes de course intense avec la pression sous les yeux de 1200 personnes qui n'attendent que ça. Mais c'est, je vous assure que c'est quelque chose où voilà, quand on va taper dans le ballon, c'est plus difficile à faire que l'on pense.
Et puis aussi un autre paramètre à prendre en compte, c'est que la Coupe de France depuis deux ans là, il y a deux tirages en un au septième tour. C'est-à-dire que quand on est au septième tour, on connaît notre adversaire du septième tour, mais on connaît aussi nos futurs adversaires au potentiellement huitième tour si jamais on se qualifie. Et là, le huitième tour, il réservait une belle affiche encore, puisque il y avait soit le Stade Bordelais qui est donc en N2 comme la SFC, mais il y avait aussi surtout les Girondins de Bordeaux. Et c'est vrai que alors, je sais pas si le staff a eu un discours à ce propos, j'imagine que oui, mais c'est vrai que quand on est à 90 minutes d'affronter Bordeaux, eh bien, ça donne aussi une saveur encore particulière à ce match de Coupe de France qui en avait déjà plus d'une de saveur.
Alors, figure-toi que non, justement, il n'y a pas eu de... Les Girondins de Bordeaux n'ont jamais été évoqués, jamais, parce que déjà, il n'y a pas besoin, parce que c'est inévitablement dans la tête de chacun. Inévitablement, mais ça n'a jamais été évoqué. Jamais, parce que ça aurait été manquer de respect à Trélissac, qui puisait la preuve en est, puisque...
Pour moi, c'était plutôt le discours du fait, les gars, on s'enflamme pas, on n'est pas encore sur Bordeaux, on est d'abord sur Trélissac. C'était surtout dans cet esprit-là que je voyais.
Exactement ça. Mais même, on a même exagéré le trait, c'est que même en interne, dans le bureau, souvent, parce que dans notre équipe commerciale, voilà, on vend le projet du club, donc pour vendre le projet du club, des fois faut avoir des arguments qui sont sexy ou quoi que ce soit. Il y avait interdiction formelle de vendre les Girondins de Bordeaux avant de Trélissac. Voilà, ça a été un discours qu'on a prôné au-delà du terrain, au-delà du vestiaire, dans tous les services du club, parce que c'est le meilleur moyen de passer pour un bête, hein, on va dire, pour pas dire de gros mots. Et puis la preuve en est, puisque même en ayant fait ça, en ayant respecté les choses on n'est pas passé. Et aujourd'hui, les Girondins de Bordeaux, c'est Trélissac qui les affronte et pas nous.
Je pense que la confiance vient également à Trélissac, parce que les deux premiers pénaltys sont manqués. Donc il y a une certaine confiance qui vient du côté de Trélissac, mais en fin de compte, ça met aussi la pression sur Trélissac. Donc comme on dit, hein, c'est le coup de dé là.
Ouais, c'est sûr. Après, effectivement, c'est un nouveau paramètre, ce tirage au sort, là, où on sait toujours avant ce qui va se passer. L'année dernière, à Panazol, c'était pareil. On savait qu'on allait affronter Panazol si on battait Mainvilliers au huitième tour. Bon, on savait qu'on allait affronter Notre 2, on s'est fait éliminer malgré tout. Donc, là, c'était une très belle affiche qui donnait envie à tous les Charentais, c'est sûr. Mais l'exercice de tir au but en a voulu autrement. J'ai toujours pensé que c'était un petit avantage d'être à domicile sur un tour de coupe. Mais par contre, je pense.
Ça met la pression aussi.
D'arriver au tir au but à domicile, c'est beaucoup plus compliqué que pour l'équipe extérieure. Voilà,
parce que met la pression, je pense.
On a plus à perdre qu'à gagner quelque part. Donc c'est encore une fois, Dame Coupe de France est capricieuse, en tout cas en notre défaveur. Donc faut toujours la respecter, cette grande dame. Et qu'est-ce qu'on est pressé de la retrouver l'année prochaine.
Oui, et puis voilà. Et puis on se rappelle aussi des belles épopées vécues, notamment sous Hervé Louba, l'élimination d'Auxerre, la réception de Strasbourg à Chanzy, et puis pour les plus anciens, la réception d'Auxerre du côté de Poitiers. Enfin, il y a quand même des belles épopées. Moi, je voulais revenir sur
Nancy.
Oui, puis il y a la pièce avec Lyon pour les plus anciens.
Avec Lyon, à Marseille. À Marseille, oui.
De toute façon, l'histoire d'Angoulême et de la Coupe de France, c'est énorme, quoi. C'est
bien
énorme.
Sûr. C'est ça qu'on a gagné. Je l'ai chez moi. Si un jour tu veux le bouquin, je l'ai chez moi, l'histoire.
Eh ben, écoutez, ce sera avec plaisir.
Ça s'appelle Les Pelouses Vertes.
D'accord.
J'ai joué avec Daniel Solors, donc voilà.
Ah, effectivement, ouais, des grands noms
D'ailleurs, je pense à lui parce que, il va pas très, très bien en ce moment.
Donc, écoutez, on a tous une pensée pour lui qui a défendu nos couleurs fièrement et, qui représente les belles heures du club.
Je voulais aussi revenir sur l'aspect commercial du club. On a vu fleurir dans Angoulême et aussi dans le Grand Angoulême plein de panneaux publicitaires à CFC avec le logo du club en gros. Est-ce que vous êtes satisfait de cette campagne d'affichage? Et globalement, est-ce que vous êtes satisfait de votre nouvel espace partenaire qui a été inauguré il y a bientôt un an maintenant désormais, il me semble, et puis surtout de l'affluence qu'a le bon, enfin de l'atmosphère globale qui y règne.
Alors, je suis plus heureux de voir cette campagne d'affichage urbain grâce à notre partenaire Vedio, parce que moi je suis arrivé au club en qualité de chargé de communication, donc je gère toujours ça accompagné de Pauline, de Enzo, de Pierre-Antoine qui m'épaule dans cette mission là et voilà, de voir le logo du club, ce beau logo dans les rues d'Angoulême, pour moi c'est une vraie fierté, c'est un bonheur immense parce que c'est un canal qu'on n'avait jamais pu bénéficier au préalable. On a beaucoup fait d'activation sur les réseaux sociaux et sur d'autres canaux, mais celui-ci on l'avait jamais fait. Donc aujourd'hui de se balader dans les rues d'Angoulême et de voir du Grand Angoulême et de voir ces affiches là, c'est un vrai bonheur. Donc je remercie notre partenaire Vedio pour cela. Qui plus est, il y aura une autre campagne un peu sympa pour qui va commencer la semaine prochaine, il me semble, pour en lien avec la Coupe du Monde, avec le Qatar, où vous verrez deux panneaux de signalisation avec un panneau avec 5000 et quelques kilomètres direction le Qatar et un autre à 2 kilomètres direction Le Bon en disant voilà le foot ici à Angoulême.
Ah bien, très bien.
Le chemin le plus court c'est Le Bon. Hein.
Exactement, donc vous me direz ce que vous en penserez et j'espère que ça plaira aux Charentais ce petit clin d'œil. Donc voilà, donc c'est un vrai plaisir de ce côté-là et pour ce qui est de l'espace partenaire, ben voilà, nous encore une fois on a un club, nous, l'ambition, c'est de communier et de fédérer avec la Charente entière. Et cet espace-là permet au moins de communier et fédérer avec nos partenaires. Et on est ravis de pouvoir les recevoir dignement dans une atmosphère et une décoration, une ambiance qu'on s'est attaché à travailler avec nos partenaires, notamment Encore Design, une entreprise qui nous accompagne, sur la communication du club. Et puis avec Pauline qui a énormément œuvré sur ce domaine-là, donc on est ravis effectivement du rendu final, mais on s'aperçoit qu'il faudrait déjà l'améliorer, déjà le développer, déjà voilà faire grandir cet espace-là, parce que forcément la demande augmente sans cesse, donc c'est un plaisir, mais victime de notre succès, il faudrait déjà qu'on puisse apporter d'autres améliorations et d'autres modifications.
Pierre-Emmanuel, est-ce que vous vous inspirez du SA15, de ce qu'ils font en termes de communication et de réception des partenaires, etc.?
On s'inspire de tout le monde, en ayant nos valeurs, notre identité et notre manière d'être et de faire. Aujourd'hui, on nous taxe positivement d'être un club convivial, accessible. Oui. Ça, c'est un bonheur parce que c'est le président, Monsieur Trio, qui l'incarne, cette valeur-là. Il l'a toujours fait, il a toujours été extrêmement disponible, qu'importe les gens en face de lui, les interlocuteurs qu'ils soient, qu'importe le statut, quoi que ce soit, c'est sa marque de fabrique, c'est sa disponibilité, sa joie de vivre, etc. Donc nous, ça c'est notre marque à nous, donc on essaie tout en observant tout ce qui se passe à droite à gauche de faire les choses avec cette marque de fabrique là qui nous appartient et qu'on est fier et qu'on va veiller dans notre développement à ne jamais y déroger.
Vous avez choisi Attitude 98.3 et 90.7, mais aussi attitudefm.com. Merci de votre fidélité. Vous écoutez Culture Sport, votre émission des sports, le lundi 19h-20h30. Nous retrouvons notre invité Pierre-Emmanuel Allard, directeur sportif de la CFC. C'est à vous, messieurs.
J'aimerais évoquer la jeune garde de la CFC, et puis forcément aussi l'équipe réserve, mais parle-nous de ces jeunes PE qui s'entraîne avec la première pour certains depuis l'an dernier, et puis pour certains qui sont en train de faire leur trou, comme Noah Marchessault, hein, qui a été titulaire sur les trois derniers matchs. Et puis il y a aussi le petit Yanis Elmadi, le petit Lucas Macan. J'ai les petits parce que du coup c'est vraiment un petit affectueux. Et puis surtout le petit Julien Inizan qui est rentré en Coupe de France contre Elissa, qui est très en vue en équipe réserve. Je sais que pour toi l'aspect formation, l'aspect club est hyper important. Parle-nous un peu de ces jeunes qui sont du cru et qui sont aussi des pièces hyper importantes au sein du dispositif ACFC.
Ouais, ben je vais répéter la même rengaine. Le club a été et restera un club formateur quoi qu'il arrive. Dans les meilleurs moments de l'histoire du club, on avait un Jean-Jacques Bayola formé au club qui était en demi-finale de Coupe de France, qui a joué contre Michel Platini en huitième contre Nancy. On va en parler tout à l'heure. Voilà. Et dans la pire histoire du club, ça a été la formation qui a permis au club de sauver. Parce que on avait des équipes à un certain niveau national et parce que les jeunes ont intégré l'équipe première en masse pour jouer en DH et sauver le club. Donc, le club est et restera un club formateur quoi qu'il se passe. Après, il faut savoir que de faire la formation, c'est extrêmement compliqué. Parce qu'aujourd'hui, le système ne permet pas d'amener tout le monde en haut de l'équipe première. Entre les études.
Je te coupe un petit peu, mais même sur le plan économique, c'est compliqué.
Ouais, totalement. Sur le plan économique, c'est le même.
C'est lié.
Exactement, parce que moi, il est hors de question. Aujourd'hui, ce sont des individus avant d'être des footballeurs. L'humain est au cœur du projet. Il est hors de question que je demande à un garçon d'arrêter ses études pour pouvoir s'entraîner le matin avec l'équipe première et jouer avec l'équipe première. Alors qu'aujourd'hui, on sait que les situations de footballeurs sont extrêmement précaires. Donc, c'est pas possible de faire ça. Donc, aujourd'hui, les garçons, ils ont une vie de dingue. Ils sont en fac à droite à gauche. Ils ont la pression des études, la pression de parce qu'il faut savoir que c'est d'être sportif de ce niveau-là, c'est que des concessions sur l'hygiène de vie, sur la rigueur qu'il faut s'infliger à soi-même. Donc c'est extrêmement compliqué pour ces jeunes garçons et franchement je leur tire mon chapeau. Et c'est pour ça que c'est très difficile d'amener des joueurs jusqu'à l'équipe première et ensuite une fois qu'ils sont en équipe première d'arriver à leur donner du temps de jeu, à les rendre compétitifs. Donc là aujourd'hui il y a Noah qui a un très bel exemple parce que Noah il a tout compris et très rapidement. C'est-à-dire que Noah c'est un garçon à l'écoute, c'est un garçon qui travaille, c'est un garçon qui ne revendique à rien et qui ne bronche pas et qui franchit les étapes par étape. C'est-à-dire que voilà, il s'entraîne avec l'équipe première depuis deux saisons maintenant. Ça a été une volonté de ma part de l'intégrer et David a suivi les yeux fermés là-dessus. Donc ça c'est un vrai plaisir d'avoir un entraîneur qui est là. Et Noah, il a d'abord validé le niveau R1 et en étant très bon à chaque fois en évoluant R1, pas seulement en jouant mais en étant bon au niveau R1, en ayant des statistiques. Et maintenant il en est à son troisième match d'affilée titulaire en National 2. Il bénéficie aussi forcément des absences des uns et des autres. Mais aujourd'hui, il est là, il répond présent et je suis ravi pour lui et j'invite tous les autres jeunes camarades de vestiaire qu'il a à suivre son exemple parce que c'est le bon chemin à suivre. C'est vraiment le bon chemin à suivre. Donc voilà, donc on a le bonheur aussi d'avoir vu par exemple Julien Enizan qui
a fait de match. Moi, ça a été ma révélation sur le début de saison, je le connaissais pas du tout et d'avoir vu en réserve Simon à plusieurs reprises, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce joueur.
Ouais,
ça remplacera pas Geoffrey Lobo dans mon cœur, bien sûr, mais mais j'aime beaucoup Julien Enizan, c'est vrai.
C'était le cas pour notre coach, hein, David, qui a choisi de le sélectionner pour ce match extrêmement important et qui l'a même fait rentrer en jeu. Donc, mais il faut savoir que c'est compliqué parce que il peut pas s'entraîner le matin avec le groupe de l'équipe première. C'est des garçons qui jonglent entre vie scolaire, vie personnelle et vie sportive. Donc c'est extrêmement compliqué. La vie qu'ils ont, franchement, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc,
et puis pour faire un petit rajout sur la formation, il y a aussi tous les joueurs de la CFC chez les jeunes que l'on voit pas en équipe première parce que tout simplement ils sont partis pour des structures professionnelles. Il y a des joueurs qui sont partis sur Bordeaux, sur Toulouse.
Et c'est raison de question de le préciser parce que chaque année aujourd'hui nos meilleurs joueurs et on est content pour eux intègrent des centres de formation notamment principalement les Girondins et le TFC. Donc c'est ça cette réalité là, c'est qu'entre les garçons qui sont trop bons et qui partent en centre de formation, les garçons qui ont la chance de réussir à l'école et qui partent pour raisons universitaires ou enfin scolaires en général, c'est derrière il est très difficile d'amener les garçons jusqu'à l'équipe première quoi. Voilà.
Est-ce qu'il y a des entraînements en commun Pierre Emmanuel entre les joueurs de la B et les joueurs de l'équipe Fagnon?
Non, c'est pas possible parce que comme je l'expliquais, les garçons de l'équipe première, ce sont des garçons contractualisés au club et à temps plein au club qui s'entraînent les matins, puisque être joueur d'une équipe première, c'est pas uniquement s'entraîner, c'est aussi participer aux soins kinés, c'est aussi participer aux séances vidéo, c'est aussi participer aux obligations que le club leur incombe avec les événements partenaires et autres. Donc c'est pour ça que les garçons doivent s'entraîner le matin pour être disponibles pour toutes ces autres activations tout au long de la journée. Et là, les joueurs de l'équipe réserve sont des joueurs. On a le bonheur d'avoir 99,9% de joueurs formés au club au sein de cette équipe réserve. Donc, c'est déjà énormissime parce qu'il faut savoir quand même qu'aujourd'hui, en Charente, la deuxième équipe derrière la CFC, c'est la CFC. Puisqu'on a CFC en National 2, ACFC en R1. Après, il y a aussi l'UA Cognac, Execo en R1. Mais voilà, aujourd'hui, la deuxième équipe du département, c'est aussi notre équipe réserve. Avec exclusivement des joueurs formés au club. Donc ça, c'est un vrai bonheur. Mais par contre, on palie ça avec des réunions techniques. C'est-à-dire que tous les lundis midi, on a une réunion staff où David Perrier est présent, l'entraîneur de l'équipe réserve, où on traite de chaque joueur individuellement. Donc il y a ça. Après, on se déplace effectivement, on filme les matchs de l'équipe réserve pour pouvoir les voir ensuite dans un second temps. Le maximum de matchs, comme nous sommes pas à déplacement, nous sommes sur place. Le staff se déplace, voir aussi superviser chacune des rencontres. Donc il y a un vrai vrai suivi, Mais malheureusement, non, on peut pas faire entraîner tout le monde ensemble pour un problème d'infrastructure, mais aussi pour un problème de timing.
Tu as évoqué David Perrier, c'est un choix fort quand même pour le club d'avoir incité un entraîneur comme David à venir rejoindre la CFC.
Ouais, c'est un Charentais en plus.
C'est ça, oui. Ouais. David nous avait rejoint le club pour entraîner les 17 ans nationaux à l'époque. Et j'ai souhaité qu'il prenne l'équipe réserve pour la simple et bonne raison qu'il avait côtoyé tous ces jeunes. Comme je disais, 99,9% des joueurs avaient été formés au club. Donc, il les a tous côtoyés dans les catégories jeunes. Donc, pour moi, c'était important d'avoir un entraîneur, mais aussi un éducateur. Et lui, il a cette double casquette, David, d'être entraîneur et éducateur qui sont deux fonctions différentes. Donc, ça avait du sens qu'ils prennent cette équipe réserve. Et coach d'une équipe réserve, c'est extrêmement compliqué parce qu'on subit les agissements de l'équipe première et on doit veiller à être au service de l'équipe première. Donc c'est pas évident. Donc et en plus nous on a cette vocation de formateur parce que quand ils arrivent en équipe réserve, ces jeunes-là, il faut continuer à parfaire leur formation et c'est leur découverte du monde senior. Donc il y a encore du boulot à faire. Et David y arrive très bien de ce côté-là. Donc c'est pour ça que le choix David Perrier a été fait.
Ouais, puis à la fois on est dans de la post-formation, donc on demande forcément de la patience aux jeunes, et puis c'est des jeunes qui doivent s'acclimater au football adulte, mais à la fois on leur demande aussi les résultats, parce que les nombreuses descentes de National 2 et de National 3 ont forcément des répercussions aussi dans les divisions régionales, et donc même en R1 il y a pas mal de descentes cette saison, donc à la fois on est patient pour voir les joueurs franchir les étapes les unes après les autres, mais on veut aussi performer pour tout simplement maintenir l'équipe réserve en R1. Et d'ailleurs, j'adresse un petit tac là au club de Bergerac qui n'a pas su garder sa réserve en R1 et qui est en R2. Mais d'avoir une réserve en R1, c'est hyper gratifiant et surtout c'est hyper important parce que d'avoir N2 et R1, c'est vraiment ce qu'il faut quoi.
Non, mais c'est primordial parce que tu l'as dit aujourd'hui quand là on a beaucoup de blessés, beaucoup vont repasser par la case R1 pour gagner du temps de jeu, pour prendre des repères. Si demain, quand le niveau, il y a trop d'écart de niveau, il est même plus intéressant de les faire passer par l'équipe réserve parce que ça les dessert plus qu'autre chose. Donc effectivement, d'avoir une équipe en R1, c'est vraiment vraiment très très bien pour la logique du club. Et puis qui puisait, quand nos garçons ont été au plus haut niveau régional dans toutes les catégories de jeunes, il est intéressant qu'au niveau senior, ils soient aussi au plus haut niveau régional. Donc pour cette logique de formation, pour cette logique de réathlétisation des joueurs blessés ou aussi relancer un joueur contre-performant de l'équipe première et qui reprenne de la confiance et des repères en réserve, c'est extrêmement important que cette équipe soit à ce niveau-là et se porte bien.
Ouais, et allez voir la réserve, c'est aussi des très beaux matchs. Il y a des très belles équipes en face, hein, notamment Brive est venu il y a pas très longtemps avec des très bons joueurs, et allez voir l'équipe réserve parce que c'est des jeunes qui taperont peut-être aux portes de l'équipe première dans quelques mois ou dans quelques années. Donc
vous avez choisi Attitude 98.3 et 90.7, mais aussi attitudefm.com. Merci de votre fidélité. Vous écoutez Culture Sport, votre émission des sports, le lundi 19h-20h30. Nous retrouvons notre invité Pierre-Emmanuel Allard, directeur sportif de la CFC, qui répond aux questions de Christian et Dédé. C'est à vous, messieurs.
Là, je vois le superbe sourire de Mathieu Kouvida à l'écran. Forcément, j'aimerais aussi qu'on fasse un petit focus sur la formation globale et sur le travail que Mathieu fait en tant que responsable technique jeune, parce que la CFC, c'est bien sûr la première, c'est bien sûr une équipe réserve, mais c'est aussi des équipes de jeunes, avec d'ailleurs des félicitations à l'équipe de Gambardella, qui est toujours en course, toujours en lice. Donc, parlons un peu de ces jeunes, PE, et du travail de Mathieu au quotidien à la CFC.
Alors, faut savoir que Mathieu, quand j'ai pris ma fonction de directeur sportif, Mathieu, c'est ma première recrue, ma toute première, même avant David Diguel, c'était ma toute première recrue. Je souhaitais travailler avec Mathieu sur ce rôle de formation, parce que Mathieu, aujourd'hui, après une super expérience au Stade Brestois, déjà, il a le sang bleu. Il a le sang bleu, c'est-à-dire qu'il aime le club comme pas possible. Et ça, c'est important quand on œuvre dans un tel projet d'aimer pour qui on travaille et de vouloir toujours porter l'étendard du club comme il le fait. Déjà, c'était très important. Et qui puisait, c'est un énorme travailleur et quelqu'un d'extrêmement compétent, voire même de talentueux. Vraiment, je le pense sincèrement. Donc, je suis ravi que Mathieu nous ait rejoint après, encore une fois, son expérience en Bretagne au Stade Brestois. Aujourd'hui, Mathieu, il avait la mission première, c'était de fédérer une vraie équipe d'éducateurs. Et ça, c'est une mission plus que réussie. Aujourd'hui, l'enjeu, ce qu'on souhaite mettre en place, c'est que les éducateurs, peu importe dans quelle équipe ils coachent pour le club et non pour leur équipe. Pour moi, c'est l'idéal pour le suivi et la progression des jeunes garçons qui évoluent dans quelconque catégorie. C'est qu'aujourd'hui, il y a une espèce de collectif, de sens de collectif dans cette équipe d'éducateurs. Et ça, c'est génial. C'est génial parce qu'il y a une mutualisation des ressources, des compétences, du savoir-faire. On a une équipe aujourd'hui, tout le monde apprend de tout le monde. Tout le monde a envie de passer du temps les uns avec les autres. Donc voilà, cette mission-là, elle a plus que réussi. Il veille. Bon, c'est une mission qui court encore, hein, parce qu'il faut toujours veiller à la bonne cohésion de nos éducateurs. Donc effectivement, c'est un travail vraiment important, parce que au-delà des résultats, je parlais tout à l'heure qu'il y a que le résultat qui compte dans le football. Dans la formation, c'est un peu différent. C'est un peu différent parce qu'il y a le développement du jeune enfant, du jeune adolescent et du jeune adulte, hein, parce que il y a des garçons qu'on rencontre à l'âge de 6 ans et qu'aujourd'hui, à 20 ans, on est toujours à leur côté. Donc, il y a ce développement-là.
Le développement du footballeur et du citoyen aussi, d'ailleurs.
Exactement, exactement. C'est exactement ça. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on œuvre aussi beaucoup, puisqu'on est gérant de la section sport-études et foot-études, un collège et lycée à Marguerite de Valois. Donc, il y a un accompagnement scolaire aussi important qui est fait. Et puis, des fois, c'est ce que je dis à ces éducateurs, je dis, vous rendez pas compte de l'importance que vous avez pour les jeunes. Aujourd'hui, dans une société où parfois on manque un peu de repères, aujourd'hui, vous êtes presque parfois plus écoutés qu'un prof d'école ou même des parents eux-mêmes de certains enfants. Donc vous avez un rôle énormissime auprès des enfants. Donc c'est vrai que le boulot qui est fait est remarquable, parce que c'est là encore, c'est un investissement, une implication énorme de chacun d'entre eux. Donc ça, je les félicite et je les remercie, parce que eux aussi ils portent le logo du club sur eux tout au long de la semaine et ils le défendent et ils le valorisent à chacune de leurs prestations. Donc je les remercie aussi de ce côté-là.
C'est vrai, c'est la transmission des valeurs, en fait, qui est importante, Pierre-Emmanuel.
C'est la priorité. C'est la priorité absolue. C'est, il n'y a que ça qui compte, j'ai envie de dire. Le reste en découle. Mais c'est véritablement, c'est vachement important. Vous savez, j'ai une petite anecdote qui m'a fait chaud au cœur, où j'embauchais un matin l'année dernière, c'était un matin d'hiver, donc il faisait encore nuit, et puis je croise un jeune garçon qui attendait son bus, un abribus, et il avait le survêt de la CFC. Donc on se connaissait pas, moi j'étais dans la voiture le côté à CFC, lui avait le survêt de la CFC, et puis on s'est souri, on s'est salué sans même se connaître, hein, on a ce sentiment d'appartenance aujourd'hui, peu importe le statut que l'on a, on fait partie de la même famille, on défend le même logo, et ça, c'est ça n'a pas de prix.
Tout d'abord, je tenais à vous remercier, hein, on connaît mieux la CFC aujourd'hui grâce à vous, votre franchise, et puis j'aurais une dernière question: quel est le projet dans les années à venir? Quels sont vos projets et le projet de la CFC?
Le projet de la CFC, il est simple. Il a été entamé il y a 12 ans quand Patrick a repris la présidence du club. C'est la structuration, la pérennisation et le développement du club. Voilà, tout simplement. Les résultats sportifs seront la conséquence de ce qu'on aura travaillé, de ce qu'on aura mis en place. Nous, ce qui compte, c'est de permettre au club, comme c'est le cas de plus en plus, d'être autonome financièrement, économiquement, développer un modèle qui permettra au club de générer ses propres revenus, de vivre et de grandir et de se développer. Il est là, le projet du club. Il passera notamment par un projet d'infrastructure qui sera important, puisque ça sera aujourd'hui ce qu'on cherche à avoir, c'est des outils qui nous permettent de générer des revenus, qui nous permettent ensuite d'investir et donc de s'armer pour être compétitif. Donc le projet est et restera de la structuration pour le développement et la pérennisation du club.
Moi, je tenais à vous remercier.
Merci, merci à vous surtout.
Tout simplement, je voulais remercier PE pour sa disponibilité à chaque fois. Et puis surtout, oui. Je voulais remercier David Gigel, l'entraîneur, avec qui les discussions sont toujours très longues et toujours très intéressantes autour d'un café. Enfin lui, parce que lui, beaucoup de café. Et puis aussi, et puis un grand merci aussi aux joueurs qui soient là depuis 6 saisons comme Geoff Lobo ou depuis cet été pour se battre pour le logo. Parce que c'est tout à l'heure parler de logo et c'est un logo que je porte aussi beaucoup très souvent personnellement et donc voilà, c'est important que en tribune sur le terrain ou en coulisses que tout le monde soit fédéré derrière ce logo de la CFC qui est important pour à nous tous, voilà, tout simplement.
Bien sûr.
Un dernier mot, Pierre-Emmanuel, que peut-on vous souhaiter?
Bah écoutez, de vibrer, de kiffer comme on peut dire, voilà, c'est des projets où on est là que pour ça. On est là que pour ça, c'est ce qu'on dit, on gagnera jamais des sous, on deviendra jamais connu. Non, l'ambition, c'est voilà de communier, de fédérer autour d'un match de football et de vivre des moments vraiment vraiment très très forts comme on peut le vivre à certains moments. Donc voilà, on a le hashtag envahissons le bon dans nos opérations de communication. Ben, c'est vraiment ça, en fait, le but, c'est d'envahir le bon de tous les Charentais et qu'on se retrouve dans le cadre d'un match de football pour communier et fédérer, parce que pour moi, il n'y a que le football qui permet ça, encore dans cette société, qui permet de réduire les inégalités, de réduire aussi les différences, etc. Parce que le temps d'un but, de ce moment de joie immense, on est bras dessous et peu importe qui on a, accroché à côté de nous, voilà, c'est sincère, c'est spontané, donc nous, c'est ça que l'on peut nous souhaiter, et voilà, tout simplement. Et puis, je tiens aussi à vous remercier de chaque fois de vous intéresser au club et de mettre la lumière sur le club à travers votre émission, parce que c'est important pour nous, donc, merci à chacun d'entre vous.
Nous, on a tiffé à vous écouter. J'espère que les auditeurs vont tiffer également pendant une heure et demie.
Espérons.
Parfait, Pierre-Emmanuel, on te remercie pour ta disponibilité. C'est toujours un plaisir très vif de pouvoir échanger avec toi. C'est toujours un plaisir de parler de la CFC, des valeurs qui sont chères à ce club, et de nous faire rester à l'écoute de ce qui se fait au niveau du club. Voilà. Merci encore, Pierre-Emmanuel. À très bientôt.
À bientôt.